Bonsoir. On est très heureuses, je parle en notre nom à nous trois, d'être ici. Je suis Sophie de Closet, j'ai la chance d'être l'éditrice de Gisèle et de Judith, Gisèle Pellicot, que je ne vous présenterai pas, et Judith Pérignon, qui ont coécrit ce livre « Et la joie de vivre », qui est sorti il y a maintenant presque 2 mois, et c'est seulement le 2e événement et le 1er en librairie que Gisèle fait en France, et c'est la 2e fois seulement que vous avez l'occasion de parler du livre après la grande librairie. Donc c'est à tout point de vue un peu particulier pour nous trois d'être ici devant vous ce soir, mais on est absolument enchantés. J'espère que ça va être un échange formidable. Merci beaucoup à Denis Mola, à Pierre Coutel, à Emmanuel Robillard et à Pauline Laperroni qui ont rendu cet événement possible, et puis aussi à Laura Lacroix chez Flammarion. L'occasion, comme c'est un peu particulier cette configuration, c'était l'occasion pour nous peut-être de revenir sur le livre, sur son aventure, sur ce que ça a été de l'écrire, de le publier. Mais ça marche si, pour la plupart d'entre vous, vous avez lu le livre. Est-ce que ceux qui ont lu le livre peuvent lever la main? Que les autres ne seront pas paumés. Ça va bien se passer. Normalement, c'est pour tout public. Ou presque. Donc je vous propose de commencer chronologiquement et de commencer par l'idée du projet, l'idée du livre. En septembre 2024, ça je pense que tout le monde est au courant, s'est ouvert à Avignon le procès de Dominique Pellicot et des 50 hommes qui sont venus pendant 10 ans à son invitation criminelle. Vous violez Gisèle alors que vous étiez sédatée dans la maison de Mazan. Vous aviez décidé de passer votre retraite avec celui qui était alors votre mari. Ce procès, dit des viols de Mazan, a eu un retentissement mondial et a provoqué une véritable onde de choc en France, mais dans le monde entier. Et très vite, même si c'est vraiment marginal par rapport à l'importance de ce procès, des propositions d'éditeurs sont arrivées. Gisèle, est-ce que à ce moment-là, ça vous a surprise? Est-ce que vous aviez l'idée un jour d'écrire un livre?
Bien sûr que ça m'a totalement surprise parce que je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre et je me demandais bien ce que je pouvais raconter si je devais écrire un livre. Et puis les propositions sont arrivées et puis, réflexion faite, je me suis dit que peut-être ce livre pouvait être utile et que mon histoire surtout pourrait servir aux autres avant tout.
Et pourquoi un livre? Parce qu'il y a eu plein de propositions de films, de documentaires, de prises de parole publiques, de BD, de tout ce qu'on veut. Quelle est la place des livres dans votre vie et pourquoi c'était important que ce soit dans un livre en particulier que vous posiez ce récit?
Parce que tout avait été dit, enfin en ce qui concerne le procès, tout avait été dit. J'avais l'impression que ma vie ne m'appartenait plus. C'est la presse qui relayait toutes les informations, on m'avait décortiqué, on expliquait qui j'étais. Et j'avais plus envie de cela. J'avais envie en fait vraiment de que les gens sachent qui j'étais vraiment, la femme que j'étais, celle qui avait pu tenir presque 3 mois et demi, 4 mois face à ces individus. Et j'avais envie en effet que les gens apprennent à me connaître surtout. Parce qu'on ne me connaissait qu'à travers le procès de Mazan et je ne me résumais pas du tout à travers le procès de Mazan.
Alors moi, j'étais la dernière à me réveiller et à arriver, comme quoi le lièvre et la tortue, ça marche aussi dans l'édition. Et quand on s'est rencontrés à Avignon, le procès n'était pas fini. Il y avait Antoine Camus, qui est un de vos deux avocats, les deux merveilleux, Stéphane Babonneau et Antoine Camus. Et je me souviens que vous m'avez dit, d'abord, je ne sais pas qui ça va intéresser. Bon, depuis, on est un peu rassurés sur ce point. Mais vous m'avez tout de suite parlé de votre enfance, de votre mère et de votre envie de faire revivre ce monde-là disparu de l'enfance. Pourquoi ça a été tout de suite, immédiatement, la première chose qui vous est venue?
Parce que ces femmes, mon enfance a déterminé, je pense, ma personnalité, la femme qui s'est construite à travers les douleurs, les malheurs. Et j'avais envie de les faire revivre à travers le livre, ces femmes. C'est une saga familiale, c'est un parcours de 3 générations de femmes, cette grand-mère qui m'a vraiment aidée à la mort de maman, et ma mère, bien sûr, et moi aujourd'hui. Donc c'était une espèce de continuité de parler d'elles aussi dans le livre, les faire revivre, et cette joie de vivre que je pense qu'elles me l'ont transmise, bien sûr.
Ça, c'est sûr, on va en reparler. Après ce rendez-vous assez vite à Avignon, dès Avignon, je vous parle de Judith, parce que la seule et unique idée que j'avais pour coécrire ce livre et pour qu'il soit ce que j'espérais qu'il soit, et il a été bien au-delà, c'était Judith Pérignon, que j'appelle un dimanche alors qu'on n'avait jamais travaillé ensemble et qu'on se connaissait un peu, mais pas tant que ça. Judith, quand je vous ai fait cette proposition, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous aviez peur de quoi? Vous vous attendiez à quoi? Et pourquoi vous avez dit oui alors que vous aviez plein de projets et que franchement, écrire avec quelqu'un, c'était plus à l'ordre du jour pour vous?
Sophie, quand vous m'avez appelée, j'étais très surprise. Je n'avais pas, j'avais suivi, mais d'assez loin, le procès de Mazan. J'étais plutôt aux États-Unis et préoccupée des élections américaines à ce moment-là. Mais évidemment, quand vous m'avez dit Gisèle Pellicot, ça a été un double choc. C'est il faut le faire. Comment je vais faire? Parce qu'effectivement, je suis freelance et je vis de projets et j'avais engagé des choses. J'étais engagée, quoi. Et donc, j'ai demandé à Sophie 2-3 heures pour réfléchir. Je me suis dit, bon, il faut que j'appelle mon autre éditrice. Et puis, ma fille m'appelle et me dit, maman, t'as pas le droit de refuser. Et voilà, et il m'a fallu juste ça, parce que le oui, il était là, il était immédiat. J'ai pas eu de peur, parce qu'en fait, il fallait le faire. Ça, c'était la réaction immédiate. Ça avait tout son sens. Il fallait, je ne savais... Justement, ce que Gisèle ressentait de son côté, moi, je l'ai très vite ressenti. C'est tout le monde la connaît. Enfin, on sait tous qui est Gisèle Pellicot, mais on ne sait pas qui elle est. Donc, il manquait ce livre.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre?
Ah, j'ai bien raconté, oui, parce que ça a été une magnifique rencontre. J'aurais pas imaginé d'ailleurs rencontrer une telle femme aussi généreuse, et ça a été vraiment une très très belle expérience parce que elle s'est écoutée, elle est vraiment pudique. C'est une femme pudique, faut le dire, elle le dit pas assez. Et j'ai vraiment eu toute confiance en elle dès que je l'ai rencontrée. Je me suis dit qu'on pouvait faire de belles choses ensemble. Et quand on s'est parlé, je pense que la rencontre s'est faite naturellement, toutes les deux, vraiment.
Oui, ça se passait dans le bureau de Stéphane Babonneau, l'un de tes avocats. C'était donc un lieu assez neutre, assez froid. C'était l'idée de voir si ça matchait, en fait, entre nous deux. Et moi, je ne savais pas si on allait se parler 10 minutes... Voilà, et puis décider. Et en fait, et puis quoi se dire? On était toutes les deux dans une salle de réunion d'un avocat parisien. Et moi, je crois que j'ai commencé à... J'ai réfléchi, je crois que j'ai commencé à justement poser des questions. Mais en fait, vous venez d'où? Et alors, ça tombait bien, parce que c'est ça dont elle avait envie de parler. Je ne suis pas allée vers le procès où j'avais envie de connaître déjà cette part-là. Et j'ai dit à Gisèle, Gisèle, elle est bavarde, elle a commencé à me raconter plein de trucs. J'ai dit, vous permettez que je prenne quelques notes? Je ne savais encore une fois pas si on allait faire... Donc, j'ai commencé à prendre des notes. Et à un moment, quelqu'un a toqué à la porte et a dit, ben, va peut-être falloir y aller.
C'est la nuit. Il faut s'arrêter, mesdames.
Voilà, on avait commencé, en fait.
Et comment vous avez décidé de travailler ensemble? Est-ce que ça a été... Je sais que Gisèle avait une idée du cadre dont vous pouvez peut-être nous parler.
Alors, Gisèle avait l'intuition qu'il fallait que le livre s'ouvre ce mois de novembre 2020, quand sa vie va basculer. La convocation au commissariat, ça, c'était une de tes intuitions. Que ce soit un livre qui lui ressemble, donc, qui est devenu cette joie de vivre, cet hymne à la vie aussi en anglais et dans d'autres langues. Donc c'était ça. Et puis, mais après, la forme, on a commencé à se voir fin février. Donc je savais que ce serait chaque fois un voyage, puisque Gisèle, elle vit sur l'île de Ré. Donc je partais avec mon petit sac pour 2-3 jours. Et Gisèle m'avait dit, il faut que tu t'installes chez moi.
Pourquoi c'était important, Gisèle?
Parce que je ne voulais pas qu'on se voie 2 heures dans un restaurant ou dans un hôtel. Je voulais qu'elle me voie vivre, qu'elle me voie évoluer, qu'elle apprenne vraiment à me connaître, à savoir qui j'étais vraiment. Et je pensais que cette proximité d'être chez nous, c'était... Et je voulais qu'elle se sente chez elle aussi, qu'elle fasse elle faisait partie de la famille, en fait. Elle avait sa chambre, et voilà, et on prenait nos petits déjeuners ensemble, les cheveux ébouriffés en pyjama. Et ça aussi, c'était d'une simplicité, d'une authenticité, et c'était ça, je voulais qu'elle sache vraiment qui j'étais. Et c'est pour ça, ça transpire vraiment dans le livre. Elle a su respecter ça.
Enfin, écrire pour quelqu'un, c'est un peu, je le dis souvent, la vie à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas et on se dit tout. Alors que c'est des choses qui peuvent prendre des années. Et là, effectivement, se lever le matin et se retrouver au petit déjeuner, c'était. Mais il y avait une simplicité. Il y a une simplicité chez Gisèle et Jean-Loup. Enfin, je me suis sentie à ma place tout de suite. Et puis on travaillait le matin. On travaillait pendant quelques heures. On n'avait pas. On n'allait pas faire chronologiquement l'histoire de Gisèle. D'autant que quand elle répond, Gisèle, elle fonctionne beaucoup par association d'idées. Donc vous faites des voyages dans le temps, des raccourcis. Donc et elle se lance et donc à moi après de revenir en arrière, de creuser les détails. Ça s'est fait dans une forme de désordre et en même temps de fluidité. Le plan est venu tout de suite. Voilà, il y a eu quelque chose de fluide qui tient, je pense, à nos tempéraments. Au sujet, et je pense à Gisèle, c'est quelqu'un qui, depuis le... Je pense que les mécanismes qui ont servi Gisèle, qui a la manière dont elle a traversé tout ça, sont des mécanismes qu'elle a construits très, très tôt. Ça, je l'ai senti, et c'est elle-même qui me l'a expliqué, puisque même quand tu as eu tous ces malaises, ces mal-êtres, ces trous, ces absences pendant ces 10 années où elle était droguée, elle m'a dit, moi, je pensais mourir comme ma mère, mourir de la même chose que ma mère. Et je me suis dit, elle est poursuivie.
Donc d'une tumeur au cerveau extrêmement jeune.
Voilà, sa maman, Gisèle, avait 9 ans quand sa mère est morte d'une tumeur au cerveau. Et je me suis dit, quand elle m'a dit ça, c'est-à-dire que c'est une femme qui est dans la 60aine et qui est encore rattrapée par le grand, grand, grand traumatisme de son enfance. Et donc les traumatismes sont tous imbriqués les uns aux autres. Et donc le livre, pour ceux qui l'ont lu, va comme ça, on suit le déroulé de l'affaire à partir de cette convocation au commissariat. Et on va en arrière, et on remonte le temps. Et à un moment, les deux lignes se rejoignent et se croisent. Et c'est là que vous comprenez qui est Gisèle Pellicot.
Tu as tout résumé, au fait. On t'écouterait des heures. Moi, j'aime bien quand tu parles comme ça. Et c'est vrai que la rencontre avec Judith, elle est exceptionnelle, parce que je lui confie tout de ma vie. J'ai aucun sujet tabou. D'ailleurs, quand on lit le livre, je mets vraiment mon âme à nu. Mais c'est aussi grâce à l'écoute de Judith, parce qu'elle sait écouter. Et je lui fais une tellement confiance de ce que je peux lui confier de ma vie. Et quand je relis le livre, elle a vraiment su retranscrire tout ce que je lui ai confié de ma vie. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel, parce que j'ai l'impression que c'est avec mes mots. Et c'est vrai, je trouve que ça a été une rencontre. Elle s'est vraiment écoutée. Et ça, je ne suis pas sûre que ça soit permis à tout le monde. Et j'avais l'impression qu'elle était dans ma tête, en fait. Tout ce que je pouvais lui dire, elle savait l'écrire, le transformer. Et quand je relisais le livre, je relisais les chapitres, et je revoyais ma vie défiler. Je pouvais repeindre, je voyais les pièges, je voyais mes parents, je voyais mon frère. Et je dis bravo à Judith pour ça, parce que c'est exceptionnel. C'est ça qui fait ce livre ce qu'il est aujourd'hui.
Mais c'est aussi parce que vous avez une mémoire incroyable, parce qu'en fait, souvent, dans ce genre de configuration, il y a des documents, il y a beaucoup de photos, il y a des archives, parfois vidéo, il y a des films d'enfance. Dans votre cas, il n'y avait quasiment rien, à part ces quelques photos de vos parents en Allemagne qui sont décrites dans le livre, mais vous aviez plus rien en fait.
J'avais préservé ces photos, d'ailleurs je les ai retrouvées grâce à Judith, parce que je les avais tellement bien rangées. Quand Judith me demande si j'ai pas des photos, je lui dis écoute, je sais pas. Et en cherchant, j'ai retrouvé dans une enveloppe Kraft les photos de mes parents que j'avais dû récupérer chez ma chère et tendre belle-mère à l'époque.
C'est et ironique. Ouais.
Donc, je les avais gardées, et c'était moi bébé avec mon frère en Allemagne, et des photos très jeunes de mes parents avant ma naissance. Et ça a pu permettre à Judith aussi de pouvoir transformer ça aussi, de remonter dans mes souvenirs. Et heureusement, oui, que j'avais une excellente mémoire, parce que pendant 10 ans où je vis ces errances médicales, où je perds ma mémoire à court terme, en fait. Mais heureusement, cette mémoire sur le long terme est restée intacte. Et ça, c'était vraiment une chance pour moi.
Ces photos, elles sont vraiment précieuses. En plus, donc c'est des photos effectivement noir et blanc. Hein, on est dans les années 50. Et heureusement, aujourd'hui, on peut les photographier et zoomer dedans. Mais parce qu'il y a dans ce livre, justement, à travers l'histoire de tes parents, et qui était très agréable grâce à ta mémoire, grâce aux détails, à reconstituer toute une sociologie française très intéressante de ces générations qui quittent la paysannerie. Ton père est soldat, donc effectivement l'Allemagne, parce que le père de Gisèle va... là, voilà, c'est la fin de la guerre. À la fin de la guerre, en tout cas, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne se partagent des bouts de l'Allemagne. Et donc Gisèle naît en Allemagne parce que son père est basé en Allemagne avec sa femme. Et donc, avec reconstituer l'histoire de ses parents, c'est comprendre toute une sociologie française, les années 50, 60, puis les parents ont quitté la paysannerie, leurs enfants vont rejoindre les périphéries des grandes villes. Et donc, dans ce livre, outre l'affaire, il y a des Français, une famille française très typique, très typique. Et c'est intéressant même pour comprendre après, pour plonger dans le côté le plus sombre de cette histoire et de ce livre, pour comprendre d'où tous ces personnages viennent.
C'est vrai que dans ce que raconte Judith, je pense que les gens qui l'ont lu ont pu, enfin les gens de ma génération, doivent repenser à leur enfance, à ce qu'ils ont vécu chez les grands-parents. Je pense que ça parle à pas mal de générations de femmes de mon âge, ce livre. Et je pense que certaines personnes ont dû se retrouver dans la manière dont c'est décrit dans le livre.
Ça, pas seulement, enfin d'autres générations aussi, je le précise. Il y a, dans le fait que vous aviez vécu ensemble, Judith a pu se rendre compte en se réveillant le matin que Gisèle mettait la table du petit déjeuner la veille au soir, et c'est comme ça que s'ouvre le livre sur cette table de petit déjeuner qui est déjà mise avant la convocation au commissariat où vous vous rendez avec Dominique Pellicot le 2 novembre 2020. Et on voit, et c'est là où c'est, je trouve, passionnant d'avoir un récit qui soit un récit littéraire avec une vraie plume, et cette complicité qu'on sent entre vous la permise, parce qu'il y a des motifs qui reviennent, et notamment ce motif du petit déjeuner. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire de l'enfance, est-ce que Judith, tu voudrais bien juste nous lire la description de la table de la cuisine de ta grand-mère? On est dans l'Indre, à Azelle-Ferron, dans ces années 50, et c'est un souvenir d'enfance de Gisèle.
Dans la cuisine, il y aurait sur la longue table le gros pain de 4 livres coupé en tranches épaisses, la cafetière fumante, du fromage blanc et des pêches de vigne fraîchement cueillies. Je crois que c'est cette table que je prolonge en dressant aujourd'hui à mon tour le petit déjeuner. Elle est enfouie en moi, comme ces rallonges cachées sous les vieilles tables de bois qu'on installe les jours de fête. Je voudrais étirer sa promesse à l'infini. Un coq chante encore dans mes souvenirs, le soleil s'insinue à travers les volets.
Cette enfance-là, elle est évidemment marquée par, à 8 ans, un drame dont on se remet jamais, celui donc de la mort de votre mère. C'est un chapitre, un passage absolument bouleversant. À quel moment, dans la manière dont vous avez échangé cette scène, comment vous l'avez racontée, comment vous l'avez sollicitée, est-ce qu'elle est venue très vite? Parce que c'est tellement centrale au début du livre, et pour comprendre la suite, comme vous l'avez dit, Judith, tout à l'heure, comment c'est arrivé?
J'ai eu besoin de raconter cette scène parce qu'elle a marqué ma vie à jamais, forcément, quand ma maman étant malade dès que j'ai l'âge de 4 ans, et je pressens que ce qu'elle a... Je ne sais pas comment l'histoire va se terminer, mais je pressens qu'il n'y arrivera pas quelque chose de bon, en fait. Et ça m'a marqué pour le restant de ma vie, parce que j'ai vu pour la première fois mon père pleurer. C'est la première fois que je voyais un homme pleurer. Je l'ai vu dévasté par le chagrin, et moi qui essaie de réveiller ma mère, je pensais qu'elle s'est endormie. C'est vrai que dans le livre, j'explique que la mort va m'obséder pendant très longtemps, parce que je m'empêche même de dormir. Et j'ai eu besoin de raconter ça à Judith, parce que je pense que ça a déterminé vraiment la femme que je suis devenue, parce que j'ai compris très vite que je ne serais pas une petite fille comme les autres. J'ai grandi beaucoup plus vite que les autres. Je suis devenue une adulte, en fait. Et ça, j'ai besoin de l'expliquer à Judith. Et ça aussi, ça permet à Judith de transformer le livre à travers l'écriture.
De toute façon, cette scène, on y est venu et revenu. Et pour écrire, effectivement, donner à ce texte sa force de vie, sa force littéraire, moi, j'étais en quête de détails, en fait. Il est pas, on n'a pas besoin d'expliquer que la mort, c'est triste. On n'a pas besoin de l'écrire. En revanche, quand Gisèle, d'abord, voit tomber sa mère, comment tu découvres qu'elle a le cancer ? Là, tu as 4 ans. Donc, reconstituer au maximum. Moi, j'écrivais. Au bout de ces 2-3 jours, souvent, je partais. J'écrivais. Et en écrivant, on a des questions qui viennent, qui ne se posent pas forcément à l'oral. Donc, je l'appelais et je lui dis, mais il était quelle heure ? Mais c'est... Enfin, des petites questions comme ça qui paraissent rien à l'échelle d'une vie. Mais pour donner force à ce moment qui est vraiment fondateur, il fallait toutes ces questions. Donc, ce moment de la mort de ta maman, de sa maladie, qui effectivement détermine après un père terriblement mélancolique, un frère qui va sombrer lui aussi. Tu es la seule survivante de cette cellule familiale. Mais j'ai eu l'impression de l'avoir, qu'on en a parlé tout le temps, que ta mère, elle était là avec nous tout le temps, en fait.
C'est vrai qu'à travers le livre, ils sont toujours là, quoi. Enfin, j'ai l'impression de revoir les scènes. Pourtant, je vais avoir 74 ans cette année et j'ai l'impression que c'était hier. Et c'est vrai que quand je relisais encore certains passages hier soir et je me disais, mais c'est dingue parce que je revois encore cette pièce. Je me revois regarder cette piste aux étoiles. C'était un mercredi soir à 20h30. La mémoire est intacte. Et je trouve que le cerveau est bien fait. C'est le disque dur qui m'a permis de pouvoir remonter tous mes souvenirs. C'est formidable pour ça.
Bon, donc là, on va essayer un truc un peu compliqué parce qu'on a déjà essayé devant les équipes de Flammarion le 23 septembre ce qu'on va faire, c'est-à-dire que Judith va lire le passage dont Gisèle vient de parler de la mort de sa mère. Normalement, on pleure toutes les trois. Donc on va essayer d'être digne devant vous.
Nous sommes installés dans la chambre puisque le lit de maman est désormais dans la cuisine. Ma grand-mère apparaît. Elle dit à papa qu'elle a mis une bouillotte sur les pieds de maman, qu'ils sont froids, qu'elle ne bouge pas et qu'il ferait bien d'aller voir. À peine s'est-il extirpé du fauteuil que je suis debout sur mes jambes. Une force me commande de le suivre. Nous nous rendons dans la cuisine. Papa se penche vers maman. Il lui ferme les yeux. « Nanou, » murmure-t-il. Je sens une peine immense dans sa voix, un vent de panique. J'ai l'impression qu'il l'appelle. Et je secoue doucement l'épaule de maman pour la réveiller.
On a géré. Y a une deuxième ligne narrative. Donc, comme vous l'avez expliqué, le livre s'ouvre ce 2 novembre 2020, le jour de la convocation au commissariat de Carpentras, où Gisèle, vous allez découvrir les crimes dont vous avez été victime pendant 10 ans. Et puis ensuite, il y a ce saut dans le passé. Mais en fait, il y a un double saut dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la rencontre avec, dans les années 70, avec Dominique Pellicot. Et puis, il y a votre enfance et ce qu'on vient de parcourir sur votre enfance, la mort de votre mère, cette belle-mère qui était vraiment extrêmement désagréable et méchante. Et donc, il y a ces deux lignes-là. Et la rencontre avec Dominique Pellicot, elle aussi, elle apparaît comme un souvenir et une scène très forte. On le voit, il a l'air de Julien Clerc, il a une marinière, vous avez été piqué par une guêpe, vous êtes dans la cuisine de votre tante. Et on y est, et le début de cette histoire d'amour revient de façon très forte et très belle dans le livre. Est-ce que ça a pu choquer ou surprendre en tout cas certains lecteurs que cette scène-là et que ce Dominique Pellicot, jeune-là, dont vous tombez amoureuse, apparaissent dépeint ainsi dans le livre. Pourquoi est-ce que c'était important de raconter ça, cette scène-là et cette rencontre-là, et de la raconter comme ça, telle que vous l'avez vécue à l'époque ?
Parce que c'était le premier homme de ma vie. J'avais 19 ans, lui avait le même âge que moi, et je l'ai rencontré chez la sœur de ma mère. Et j'avais l'impression que c'était une page d'amour qui s'ouvrait pour nous deux, parce que lui aussi avait une enfance compliquée. Et j'ai passé presque 50 ans avec cet homme. Et c'est vrai qu'on s'est aimé, on a eu 3 enfants. Alors c'est vrai que ça peut choquer aujourd'hui quand on voit ce qui s'est passé en novembre 2020. Mais moi, je suis faite de souvenirs et je ne peux pas rejouer ma vie, en fait. Et j'avais besoin de penser que ces 50 ans je ne pouvais pas les balayer comme ça pour continuer à vivre. Autrement, c'est ce que j'explique, j'étais morte depuis longtemps. Donc je me suis accrochée à ces souvenirs et je pense qu'ils feront partie de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, je suis passée à autre chose. Mais on ne peut pas oublier les moments heureux. Ça, c'est impossible. Ou alors, il faut devenir amnésique complètement. Et ça, c'est impossible. J'ai quand même eu mes 3 enfants avec lui aussi. Donc, c'est une page de ma vie qui, bien sûr, a été une page d'amour, mais une page d'amour qui s'est mal terminée. Voilà.
Judith ?
Oui, ça a dû vraiment être un moment d'une très grande force parce que moi, la première fois que j'ai vu Gisèle pleurer, qui est arrivée quand même, on a beaucoup ri, mais il y a eu aussi des larmes, c'est quand elle m'a raconté cette scène et qu'elle m'a dit « mais cet homme allait m'aimer ». C'est-à-dire que j'avais l'impression, et c'est assez bluffant, parce qu'après 50 ans, le frémissement amoureux, souvent, s'émousse. Et là, il y en avait une trace très forte. Et en fait, je pense que c'était lié au fait que Gisèle était une jeune fille qui attendait d'être sauvée, puisqu'elle elle vivait dans une espèce de tristesse, une famille très triste. Lui aussi, et l'histoire de sa famille à lui est racontée. Mais j'ai vraiment, les larmes lui sont montées. Cet homme allait m'aimer, comme si elle l'avait senti hier ou avant-hier. Et au fond, il fallait le raconter comme ça, avec ton regard d'alors. Et en plus, je trouve que quand c'est ça l'objet des livres, c'est de raconter la complexité humaine. Et les monstres, ça n'existe pas, si ce n'est que... Il y a une évolution. Les monstres, ils viennent pas des autres planètes. Ils sont parmi nous. Donc, ils ont une histoire, ils ont une enfance. Et quelque chose tourne mal. Et le livre, en creux, effectivement, est aussi le parcours de Dominique Pellicot.
Et la manière dont se conclut cette scène de rencontre, elle annonce quand même aussi la suite pour le lecteur qui lui sait comment cette histoire d'amour c'est fini, par quelques lignes que je trouve très puissante.
Nous étions des amants et nous étions des jumeaux. Nous irions toujours ensemble au bout de la souffrance, loin de nos familles meurtries. Je serai son remède et il serait le mien. Il est ensuite venu à Paris demander ma main à mon père qui n'a pas osé dire non.
C'est vrai que j'avais un papa très protecteur et qui ne voyait pas ce mariage d'une bonne augure. Je pense qu'il avait été plus en avance que moi sur l'évolution du couple, certainement. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que je souris par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que, bien sûr, que c'est des moments extrêmement douloureux quand on repense à tout ce que j'ai pu vivre avant, quoi, c'est clair. Mais bon, je ne vais pas faire pleurer ce soir parce que mon histoire se termine bien quand même. Pour ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils sont rassurés.
Oui, on va spoil alerte. le titre est à la hauteur de la promesse. Le livre est à la hauteur de la promesse de son titre. Cette scène de rencontre, elle arrive juste après donc cette matinée de novembre 2020 au commissariat de Carpentras où. Et c'est la force de ce livre que vous avez écrit ensemble, c'est que il y a des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on sait quand même. On sait qu'un jour au commissariat, un policier vous a expliqué et que vous ne saviez pas ce qui s'était passé. Et malgré tout, on le lit et on est noué. Et notamment ce premier chapitre, après avoir vu les photos, vous n'arrivez pas à croire que c'est bien vous sur les photos. Vous dites « mon cerveau s'est arrêté ». Dans le bureau du sous-lieutenant Perret. Est-ce que ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Gisèle ?
Parce que je n'étais pas en mesure d'accepter ce qu'on était en train de me révéler, en fait. On me révélait des choses tellement horribles que ma vie s'est arrêtée à ce moment-là, le 2 novembre. Et donc, je pense que mon cerveau, quand je dis qu'il s'est arrêté, j'ai su la suite après par la psychologue qui m'a pris en charge, c'est que mon cerveau avait fait une dissociation. J'étais restée dans le passé, mais je n'étais pas du tout dans le présent. Je pense que c'était un mécanisme de défense pour moi de me protéger de toutes ces horreurs qu'on venait en train de m'annoncer à ce moment-là.
Et juste après, d'ailleurs, quand vous rentrez chez vous, et c'est une scène folle, quand on la lit, vous faites le ménage et il y a une machine et vous mettez à sécher les habits de Dominique Pellicot, qui ne reviendra jamais.
Oui, ça surprend. Bien sûr, cette scène peut surprendre, mais je pense que j'ai tellement besoin de faire le ménage, surtout dans ma tête, parce que tout ce qu'on vient de me dire, pour moi, c'est tellement insensé et que ce n'est pas possible. Donc oui, je range, d'abord parce que la maison est en désordre, parce qu'on a cherché les preuves qu'ils n'ont pas trouvé, les fameux médicaments, et ma maison est en désordre, et j'ai besoin, en effet, de ranger. Mais quand je suis énervée, je fais du ménage aussi. Donc ça me permet de me calmer un peu. Et donc, en effet, je fais cette scène où je nettoie tout, je fais la lessive, je nettoie les caleçons, les pyjamas, j'étends le linge. Enfin, c'est vrai qu'elle est surréaliste, cette scène. Mais c'est ce qui me permet de rester en vie aussi. Parce que j'ai un moment où je me demande si je ne vais pas passer à l'acte. Et ça me permet aussi de, voilà, de m'occuper l'esprit et physiquement d'être présente.
Et il y a plein de moments qui ont été difficiles. Et il y a un moment notamment très dur, c'est le moment où vous devez annoncer à vos enfants ce qu'a fait leur père et qu'il est en prison. Et il y a une autre scène très difficile, ça vous l'avez beaucoup dit, et on imagine sans peine à quel point ça a été d'une violence inouïe d'annoncer à vos trois enfants ce qui s'était passé. Et il y a une autre scène, vos enfants descendent à Mazan, et puis très vite ils vous disent il faut vider la maison, il faut remonter à Paris, vous remontez avec eux à Paris. Et là il y a un moment que je trouve déchirant, dont personne ne parle jamais quand il parle de ce livre, ce qui est pour nous une surprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et puis peut-être que Judith pourra nous
oui.
le dire.
Les enfants, naturellement, ne veulent plus... D'abord, je ne peux pas rester dans ma maison, sur la demande du sous-lieutenant Perret, mais mes enfants veulent me ramener absolument chez eux, à Paris.
Oui, parce qu'il y a, y a plein d'accusés, plein d'hommes dont on sait qu'ils sont nouveau violés, qui sont toujours en liberté.
Voilà. Et là, je suis obligée de faire ma valise, et je ne sais pas quoi mettre dans cette valise, parce que je ne sais pas pour combien de temps je vais partir. Et on part d'Avignon, on arrive à Gare de Lyon. J'ai mes deux grosses valises chargées de vêtements et mon petit bulldog au bout de sa laisse. Et quand j'arrive sur le quai de Gare de Lyon, là, j'ai une nuée de une foule parce que les TGV arrivent sur, à peu près sur le même quai. Et je me demande vraiment ce que je suis en train de faire dans cette gare de Gare de Lyon, en fait. Je suis totalement perdue. Je ne sais plus qui je suis, où je suis. Parce que mes enfants vont ils vont retrouver leur mari, leur femme, et enfin, mes fils retrouvent leur femme et ma fille retrouve son mari, mais moi je n'ai plus personne qui m'attend, quoi. Donc je me dis qu'est-ce que je fais là, et c'est pas dans l'ordre des choses d'aller vivre chez ses enfants. Et cette scène là elle est vraiment insupportable pour moi, c'est vrai.
Sylvie nous a déposé à la gare. Je n'avais plus que deux valises et au bout de sa laisse Lancôme, mon petit bulldog qui guettait encore le retour de son maître. Le train a filé à toute vitesse. De longs silences s'installaient entre nous, mélange d'épuisement et de sidération. De lents déclics s'opéraient en moi, mais j'avais surtout l'impression d'être dans une immense broyeuse. Mes enfants retournaient à leur vie, je n'en avais plus. Notre arrivée Gare de Lyon à Paris fut peut-être le moment le plus pénible. Je pleure encore aujourd'hui rien que d'y penser. Je ne savais pas ce que je faisais là. La foule sur le quai me faisait l'effet d'une nuée de mouches qui fondait sur moi. Le vide m'aspirait. C'était comme une faille, une vieille faille sous mes pieds qui me poursuivait. Me cherchait depuis longtemps, m'avait trouvé et me prenait tout encore une fois.
Et ce qui est fou dans cette scène, c'est qu'il y a deux motifs dans le livre. C'est le TGV, puisque vous dites souvent « je me suis pris un TGV en pleine figure ». Et le sol qui se dérobe sur les pieds et qui va se dérober au long de ces 4 ans, puisqu'entre ce moment 2020 où Gisèle apprend ce qui s'est passé et le procès, il s'est passé 4 ans, 4 ans d'enquête, 4 ans de compréhension, 4 ans de révélations successives, où à chaque fois c'est une déflagration et ça ne s'arrête jamais en fait. Et 4 ans aussi à apprendre à se réconcilier avec soi-même et avec son histoire. Et c'est vraiment tout ce parcours à partir de cette scène-là. Comment est-ce qu'on retrouve le chemin de qui on est? Comment on se réapproprie sa vie, en fait, qui commence dans le livre?
C'est la première fois dans le livre qu'apparaît ce mot de faille, hein, la figure de la faille qui me poursuivait, qui me cherche. Donc cette faille, on comprend bien, comme on vous a dit, l'enfance a été racontée. C'est-à-dire que le danger, le chagrin, la mort, quelque chose poursuit Gisèle depuis très longtemps. Et quand elle m'a raconté cette scène, que c'est toi, Gisèle, qui m'a parlé de cette nuée de mouches qui te fondait dessus, c'est une image très forte. Et c'est la perte encore qui recommence. C'est j'ai perdu maman, j'ai perdu ma vie. Et donc, c'est effectivement, la figure de la faille s'installe dans le livre comme une espèce de répétition.
Oui, je décris souvent, vous savez, comme le boxeur qui tombe sur le ring, qui à chaque fois se relève avec les coups, et de se dire comment on va se réparer tout ça. Mais on y arrive avec du temps. Il nous faut du temps. Je suis désolée.
Non, c'est moi, c'était pas sympa, ça, je savais. C'est là, c'est difficile. Une des réussites du livre, et où, comme vous l'avez dit, on se retrouve, enfin, chacun peut se retrouver dans le livre, c'est la manière dont, avec beaucoup de subtilité et d'élégance, et une sincérité que j'avais jamais lue, vous parlez de votre vie de femme, de votre corps, de la sexualité, de comment est-ce qu'on découvre ça pour une femme de votre génération, de comment on découvre le plaisir, de comment est-ce qu'on voit le désir masculin et son évolution. Et ça, j'avais jamais lu ça nulle part ailleurs. Et ça ouvre des espaces de conversation, même entre générations, ce que je trouve extrêmement beau. Comment, alors bien sûr, cette complicité incroyable qu'il y a entre vous explique que ça a été possible, mais malgré tout, comment on fait pour parler de ça? Parce que c'est pas facile quand même de raconter tout ça.
Je vais laisser la parole à Judith, elle l'expliquera mieux que moi. Là, j'avoue que j'ai vraiment mis mon âme à nu parce que je suis quelqu'un de très très pudique. Mais quand j'échangeais avec Judith, j'avais tellement confiance et elle me disait mais ça va parler à beaucoup de femmes. Et je lui ai fait confiance parce que je crois qu'en effet ça parle à beaucoup de femmes, tout ce qui est relaté dans ce livre.
Alors moi aussi, comme tu le disais, je suis extrêmement pudique.
C'est incroyable que deux femmes aussi pudiques aient pu faire un livre pareil.
Mais justement, parce que en fait, ça, c'était comme c'était pas encore écrit, c'était d'abord deux femmes qui se parlent sur un coin de canapé, comme des femmes se parlent entre elles. Mais il fallait absolument, justement, puisqu'on avait installé cette vraie rencontre amoureuse, il fallait qu'on comprenne. Comment on allait arriver, alors on ne peut pas tout expliquer de ce qui s'est passé dans la tête de Dominique Pellicot, mais quand même, il fallait que ce couple, on le voit évoluer, s'aimer, moins s'aimer, vivre, avoir des enfants. Et effectivement, quand Gisèle m'a dit, alors je ne sais plus qui a demandé, maintenant ça fait un an qu'on s'est parlé, mais en tout cas, il y avait des petits signaux comme ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand Gisèle me dit, mais... il a demandé des nouvelles choses après notre premier enfant. Je crois que voilà, j'étais trop avec mes enfants, pas assez avec lui. Enfin, toutes ces choses-là, on les entend dans la bouche de beaucoup de femmes. Ce qui se joue autour de la maternité, du corps qui change. Quand Gisèle m'a dit, mais assez tard, je l'ai rajouté dans le texte plus tard, qui lui avait dit qu'il ne trouvait pas ça joli, une femme enceinte. Pour moi, c'est même plus une question de génération. On sait bien, toutes les femmes vivent... Enfin, le corps d'une femme, c'est une machine incroyable qui va faire du bien, qui va faire mal, qui va changer tout le temps. Et c'était l'enjeu, le corps de Gisèle, y compris au procès, ce corps gisant était là encore. Et donc, il fallait lui rendre une vie à ce corps. Et on ne peut pas parler que par les mots, les sentiments. Il y a un moment, ce corps, il fallait lui rendre sa vie, cette vie que toutes les vidéos et tous les médicaments qu'il t'a donnés lui avaient prise.
C'est vrai que ce corps supplicié qu'on voit sur les vidéos où je me dis que je ne me reconnais pas, que ce n'est pas moi, en fait, en effet, c'est pas moi, parce que c'est une femme sans vie, qui n'a plus de conscience et qui n'a plus d'âme. Donc forcément, c'était impossible. Et ça, je pense que ça m'a aidée aussi à pouvoir me reconstruire sur ce champ de ruines, parce que je ne me suis pas du tout reconnue, c'était pas du tout moi. Et c'est vrai que dans un couple, on évolue souvent différemment. C'est ce qui s'est passé pour moi, et je me culpabilisais, parce que souvent les femmes, enfin je pense que ça doit parler à pas mal de femmes, comme dit Judith, parce que les hommes veulent toujours une femme, une amante, mais on est surtout, quand on devient mère, moi, en ce qui me concerne, j'étais plus mère que femme, et ça, je pense que ça a perturbé beaucoup M. Pellicot. J'étais plus la jeune femme disponible pour lui, j'étais plus une maman très attentive, et ça, je pense que ça devait le frustrer.
Un autre aspect que beaucoup de personnes, mais beaucoup de femmes, on parle d'où on est, hein, peuvent se reconnaître, C'est vous, donc après, vous êtes à Paris chez vos enfants, et puis vous allez vous installer à l'île de Ré, où là, vous vivez seul pour la première fois. Et on se rend compte qu'en effet, toute cette vie, vous étiez centré sur votre couple, sur les enfants, sur le travail, même si vous aviez une vie sociale très riche, vous faisiez la fête. Mais que là, tout à coup, il y a quelque chose qui apparaît dans votre vie et qui est assez précieux, c'est l'amitié. Vous vous faites des amis, et en même temps, vous découvrez le plaisir que ça peut être aussi d'être seul. Et il y a un tout petit passage qui dit ça, parce que chez Flammarion, au fur et à mesure, on lisait le texte, on l'éditait, on échangeait, etc. Puis il est sorti dans 22 pays en même temps, ce qui est un truc qui n'existe jamais normalement pour les Français. Donc il y avait 22 traducteurs qui attendaient, ça mettait une petite pression extrêmement qu'on a très bien vécu, Judith et moi, avec vraiment beaucoup de grâce et de joie et pas du tout d'agacement. Et voilà, c'était vraiment super. Et chez Flammarion, il y avait, parce que Judith était tellement en fusion mentale et affective avec Gisèle que parfois, quand moi je faisais mon travail en me disant, mais là, je comprends pas très bien, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait le mettre à nos tournées, j'avais l'impression que je parlais à Gisèle, mais non, mais pas du tout. Et donc, je disais, Judith, reviens. C'était exceptionnel. Mais donc, comme moi, au bout d'un moment, j'étais aussi matrixée dans ce duo. J'ai fait les lire ce texte à deux, trois éditrices chez Flammarion pour qu'elles aient un regard extérieur, parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de pères Dieu avisés. Et il y a un passage où elles sont toutes revenues en disant oh, « Le pain grillé, le bonheur du pain grillé !» Et donc, comme ça a été vraiment notre leitmotiv pendant un an, et que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir la joie du pain grillé, j'aimerais juste que tu nous lises ces cinq lignes.
J'ai senti alors la force des nouveaux liens, compris qu'on peut passer Noël loin des siens tout en les aimant, qu'il y a du répit à grignoter seul le soir du fromage sur du pain grillé avec une tomate, sans se soucier de personne d'autre que soi, et surtout qu'il me fallait cesser d'habiter chez les autres.
C'est tellement bien dit, mais c'est tout à fait ça, en fait, cette période où je me retrouve seule après 50 ans de vie commune et avoir élevé des enfants. Et j'en ai eu besoin d'abord pour apprendre à me connaître, apprendre qui j'étais vraiment, parce que cette solitude-là, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même, de faire une introspection, faire un état des lieux, une introspection aussi sur moi-même. Et j'ai appris que la solitude n'était pas si compliquée que cela, bien au contraire, on en a besoin. Et moi, c'est vrai que je n'avais jamais connu ça avant. Et ça m'a fait un bien fou. C'était devenu une complice, cette solitude. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, des fois, doivent m'envier de se dire que, de temps en temps, c'est bien quand on peut être seule.
Alors que souvent, une femme seule a toujours été suspecte. Voilà. Et bien, quand les femmes découvrent qu'elles sont bien seules, elles sont plus fortes.
Voilà. Et pendant ce temps-là, l'enquête progresse. Et puis, il y a ce fameux moment qui arrive assez tard, en mai 2024, où vous décidez d'ouvrir les portes du tribunal et de renoncer au huis clos, de lever le huis clos, alors que pendant tout ce temps-là, il n'en était pas du tout question pour vous, même si votre fille et d'autres personnes pouvaient vous y encourager, vous ne vouliez pas entendre parler. Et donc ce moment qui est vraiment un moment de bascule et un moment de pivot, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce que comme...
Oui, c'est vrai que j'ai mis 4 ans avant de prendre cette décision de m'opposer au huis clos, parce que j'avais vraiment besoin de m'isoler. Et je pense que je veux, c'est ça aussi qu'il faut souligner ce soir, c'est que quelles que soient les victimes, s'il y en a même dans la salle, c'est qu'il ne faut surtout pas s'isoler. Et c'est la chose qu'on fait, c'est bien sûr, c'est de s'isoler, parce qu'on a honte, on se sent coupable, on se sent responsable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est les questions que je me suis posées qui m'ont fait beaucoup de mal, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais ni coupable ni responsable. Et c'est là que j'ai pris la décision de m'opposer au huis clos, de dire qu'en effet, la honte devait changer de camp. Elle devait se rabattre sur les accusés, sur ces individus que j'allais affronter le 2 septembre. Et c'est vrai que je n'ai jamais regretté cette décision. Je ne savais pas où ça allait m'emmener. Parce que, voilà, mais savoir aussi que j'étais bien entourée et bien préparée. Ça aussi, il faut le souligner.
Mais juste après ce moment-là, où vous marchez, vous dites cela, vous appelez vos avocats qui vous disent, ah, mais alors dans ce cas-là, il va falloir voir les vidéos. Parce que ces fameuses vidéos, jusque-là, vous aviez refusé de les voir. Comment ça s'est passé? Et après, j'aimerais que Judith nous dise comment on écrit, parce qu'à ce moment-là, tu ne les avais pas vues. Enfin, vous ne les aviez pas vues, ces vidéos.
Ça a été un moment très compliqué, bien sûr, parce que je me refusais à les visionner. Mais quand je me suis opposée au huis clos, mes avocats m'ont dit « Donc là, ça va changer la donne, il va falloir les visionner. » Donc je me suis, j'explique dans le livre, je me suis isolée dans le bureau de Jean-Loup, et c'est Stéphane Babonneau qui était par écran interposé qui m'envoyait les vidéos, me demandait si j'étais prête, si je pouvais continuer à les regarder. Donc j'ai encore une fois encaissé les coups. Et j'ai eu besoin, je ne dirais pas combien de temps j'ai visionné, parce qu'il y en a eu tellement. Je n'ai pas regardé tout, bien sûr. J'ai vu, je crois, les plus intolérables, les plus insoutenables, les plus insupportables. Et après, j'ai eu besoin d'aller marcher. Je crois que la marche, pour moi, c'est vraiment une thérapie. C'est ce qui me permet de tenir debout, en fait. La suite, je donne la parole à Julie.
Alors oui, je savais bien que ce serait un moment difficile à aborder. Moi, je ne les avais pas vus. Je me demandais alors si je les verrais ou pas. Je ne savais pas à ce moment-là. Hein. Je les ai vus plus tard au procès en appel, enfin certaines. Mais justement, je voulais, comme c'est le livre, la voix, c'est Gisèle, je lui ai dit qu'est-ce qu'il t'en reste. Et elle a commencé à égrener des choses. Mais vous voyez, des mots, des fragments de corps, de scènes. Et moi, je prenais d'ailleurs. Sans l'avoir voulu, c'est devenu comme un inventaire dans mon bloc-notes. C'était vraiment des petits fragments. Et je n'ai pas insisté. Et je me suis dit, en fait, ce sera comme ça dans le livre et ce sera rien de plus. Parce que c'est comme ça que j'ai... C'est ce qui reste dans la tête de Gisèle, et ce livre, c'est le sien. Donc je ne vais pas creuser, je ne vais pas aller chercher plus. C'est son livre, c'est sa voix. Et dans le livre... Du coup, parce qu'il y a de mon bloc-notes, après je me suis mise à écrire, et je me suis dit que ben, dans le livre aussi, on va à la ligne comme ça, comme des fragments. Et je pense, pour ceux qui l'ont lu, ben, que l'esprit complète et que ça suffit. Que c'est déjà, c'est très épuré et que ça suffit, c'est déjà d'une très grande violence. Et voilà, donc on n'en a pas parlé beaucoup de ces vidéos, en fait. Et ça suffisait.
Et de fait, il y a eu un moment particulier au cours de cette année d'écriture qui a été au mois d'octobre. Il y a un accusé, tous les accusés ont été condamnés, et un seul a maintenu le fait d'interjeter appel. Et le procès s'est tenu à Nîmes au mois d'octobre pendant 4 jours, et nous y sommes allés. Et c'est là où nous avons vu ces vidéos, mais aussi où ça a été pour Judith un moment particulier, parce que beaucoup de personnages qui étaient déjà devenus des personnages du livre, le lieutenant, sous-lieutenant Perret, Dominique Pellico, évidemment, l'avocat, les experts, tout ça, finalement, les personnages sont devenus...
Oui, je les ai vus de mes yeux vus. C'est vrai que ça m'a fait ajouter un peu plus loin 2-3 choses sur les vidéos, pour montrer leur violence. Parce que, voilà, quand on a vu ça... On l'oublie pas. Et puis, j'ai vu Dominique Pellico, que j'avais dans la tête, jeune, moins jeune, et puis que je connaissais par le dossier. Et j'ai été frappée, et ça a relancé nos discussions avec Gisèle, parce que j'ai été frappée par son autorité dans la cour, que j'avais pu lire dans les comptes rendus d'audience du procès d'Avignon. Mais là, il était... Il avait une autorité très forte dans le procès. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je réinterroge Gisèle sur cette autorité qu'il avait dans la famille. Est-ce qu'on le craignait? Est-ce que tu avais peur de lui? Est-ce que les enfants... Donc, on est reparti après ce procès sur le portrait de Dominique Pellico. Et peut-être en retournant aux bons souvenirs, mais en les teintant peut-être de ce qui n'était pas forcément des signaux très clairs, mais qui pouvait annoncer un homme pas si clair que ça, quoi. Et on l'a fait ça après le mois d'octobre.
Oui, c'est vrai que j'avais pris un peu plus de recul aussi, et j'avais un regard sur mon passé, en me disant peut-être qu'en effet, j'ai peut-être pas su décoder telle et telle chose. C'est vrai qu'après, on peut refaire sa vie, bien sûr. Mais je pense que oui, il devait y avoir une autorité chez lui que je n'avais pas décelée auparavant. Et c'est vrai que quand tu parles du procès en appel, c'est le regard qu'il t'a renvoyé. Et moi aussi, il m'a renvoyé la même image. Mais j'aurais été incapable de dire ça avant. Je n'avais pas vraiment décelé, du tout.
Autre personnage, mais collectif, comme un cœur antique qu'on a vu au procès d'appel, c'était les femmes qui venaient chanter, te soutenir, t'applaudir à la sortie du tribunal. C'était pas la même chose qu'à Avignon, mais quand même, ça nous a beaucoup émus.
Ah oui, on l'avait. Moi, je l'avais lu dans les journaux, j'avais vu la télé, mais quand on descend, voilà, le palais de justice, les marches, et que tout d'un coup, Gisèle est attendue par ce cœur, moi, j'en pleurais d'émotion. Tu le raconteras mieux que moi, mais cette foule dehors, j'imaginais Avignon, et c'est aussi parce qu'elle a été soutenue, parce que le procès était si dur dedans, mais la foule si chaleureuse dehors, que tu as tenu le coup.
C'est grâce à toutes ces femmes qui m'ont soutenue. Bien sûr, si elles n'avaient pas été là, je pense que... Il faut savoir au départ que j'étais venue que pour 15 jours. Et quand je les ai vues arriver chaque jour plus nombreuses, me faire des hauts d'honneur à chaque fois que je sortais de cette salle d'audience où je vivais quand même l'enfer, où j'étais vraiment... c'était pour moi extrêmement pénible. Elles adoucissaient ce qui se passait pour moi dehors, ce qui se passait pour moi à l'intérieur. Et ça a été une force incroyable. Et je dis à toutes ces femmes merci, parce que je pense que sans vous, je n'aurais pas trouvé la force de tenir pendant tout ce processus. C'était pas possible. Il faut vraiment être soutenu, accompagné, et elles m'ont vraiment aidé. Et puis je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de femmes qui se sont identifiées à mon histoire et que tu as dû faire aussi écho à leur souffrance, certainement. Et je pense qu'elles étaient là tous les matins. Je les voyais, ces files d'attente très tôt le matin. Il pleuvait, il faisait froid. Elles étaient là pour entrer dans les salles d'audience. Quand elle était trop petite, il y avait une salle qui était réservée au public. Elle était pleine. Et c'est vrai que c'était impressionnant d'avoir tout. Est-ce que j'aurais pas imaginé une seconde que ma parole aurait pu avoir un écho aussi large, y compris au-delà de nos frontières? C'est vrai que ce procès, pour moi, m'a totalement dépassée. Vraiment.
Je vois que le temps passe, on pourrait parler encore des heures, mais comme vous avez sans doute des questions et qu'il n'est pas question que nous échappions et nous reculions ce moment, il y a un autre personnage qui était là à Nîmes, qui était là à l'île de Ré, qui est là ce soir, dont on a déjà parlé, c'est Jean-Loup, le compagnon et l'amoureux de Gisèle. Parce que, comme vous l'aurez compris au cours de notre échange, ce livre alterne des moments difficile, douloureux, émouvant, bouleversant, et des mouvements très lumineux et très joyeux. Et cette scène de coup de foudre à la Java des baleines de l'île de Ré. Est-ce que tu pouvais nous en dire un mot?
Alors ça, j'avoue que j'aurais pas imaginé que ça puisse m'arriver, vraiment. Donc ne désespérez pas, vous voyez, même à l'âge que j'ai, tout est possible. J'ai rencontré ce jeune homme, oui, à la Java des baleines en juin 2023. Et c'est vrai que bah, ça a changé ma vie. Je pense que ça a changé la sienne aussi, parce qu'il a eu un parcours de vie aussi difficile. Pas ce que j'ai vécu, bien sûr, mais bon, une femme qui a été malade, qui l'a accompagnée pendant 10 ans. Et cet homme-là, bah, oui, c'est devenu l'amour de ma vie. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir renaître de ses cendres et de tomber de nouveau amoureux. C'est tellement génial. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, vraiment à tous. À toutes.
Et juste après cette scène de coup de foudre, il y a un moment que je trouve formidable parce que dans ce livre, il y a de la joie, il y a aussi une réconciliation possible entre les hommes et les femmes, entre les générations, entre la souffrance et le bonheur, avec l'espoir. Et je trouve que ce passage-là, sur ce point précis des rapports entre les hommes et les femmes et ce qui est possible d'imaginer, est très beau.
Je n'avais pas peur. Je sais bien que mon histoire démontre qu'il y a autour de nous, où que nous soyons, un taux élevé de violeurs potentiels. Je sais qu'elle a pu nourrir le dégoût des hommes, mais pas chez moi. Je suis apparue aux yeux du public comme une femme martyrisée. Le calvaire, s'il m'avait laissé des souvenirs, m'aurait réduite à cela, et sûrement tuée. Mais je me suis forgée ailleurs. Mon idée de la vie est née, je crois, avec le dernier souffle de maman, quand papa, penché sur elle, murmura son prénom, tandis que je lui pressais l'épaule pour la supplier de se réveiller. J'ai senti passer l'amour à cet instant, un amour infini, plus fort que la mort. Cette sensation m'a sauvée, portée, et sans doute égarée, aveuglée, compte tenu de ce que j'ai traversé ensuite avec Dominique. Pourtant, elle m'accompagne encore. Elle n'est pas morte. Je ne suis pas morte. J'ai encore confiance. Ce fut ma grande faiblesse, c'est ma force aujourd'hui, ma revanche.
C'est tellement vrai en plus.
Et Est-ce qu'il a, à quel moment il a eu le droit de lire, Jean-Loup ? Parce que quand même, faut imaginer cet homme dans cette maison où, ça, où son amour parle à cette femme qu'il ne connaît pas de choses très très intimes pendant des mois et des mois. Pour
et qui vient me chercher à la gare, me raccompagner à la gare, Jean-Loup.
Et qui n'a pas le droit de lire pendant assez longtemps.
Je l'ai autorisé à lire le premier passage qui le concernait. Voilà.
Et il après... apparaît à la page 252.
Et après, mes avocats l'avaient lu aussi, et là, je lui dis, bon, ben là, je pense que tu peux lire le livre. Voilà.
Et comment a-t-il réagi ?
Ben, j'ai vu un homme très éprouvé, j'ai vu un homme ému, j'ai vu un homme pleurer aussi, et on pleurait sur les mêmes chapitres, et donc je me suis dit, eh ben, c'est pas gagné, parce qu'on a la même sensibilité, je crois, ça aussi, c'est ce qui nous a rapprochés, certainement, bien sûr.
Et ensuite, quand le livre a été achevé, puisque là, on ne l'avait pas encore fini de l'éditer, de le publier, de l'imprimer, mais quand il a été imprimé, vos enfants l'ont lu. Comment ont-ils réagi ? Parce qu'on sait, et ça a été, et le livre le raconte, comment est-ce que ce malheur-là, il sépare, il complique les relations, que chacun fait comme il peut, et qu'on met du temps à se retrouver. C'est le cas aujourd'hui pour vous, et on en est tous très heureux, mais comment est-ce qu'ils l'ont reçu ?
Ben, j'étais surprise. D'ailleurs, Judith me l'avait dit. Elle m'avait dit, tu verras, ce livre te rapprochera de tes enfants. J'y croyais pas beaucoup à ce moment-là. Et elle avait raison. J'ai eu des messages de mes enfants disant, maman, je suis bouleversée de ce que je viens de lire. On connaissait pas des choses de ta vie que tu nous avais jamais racontées. Mais le plus, celui qui m'a le plus surprise, c'est mon petit-fils Nathan, qui a 20 ans, qui m'a dit, mamie, j'ai lu ton livre. C'est pareil, il était bouleversé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est beau, franchement. Donc, j'ai eu raison de l'écrire, ce livre, en fait, parce qu'il parle à mes enfants, à mes petits-enfants. Mes petites jumelles qui ont 15 ans ont eu l'autorisation de le lire. Je n'ai pas pu échanger encore avec elles, mais les vacances vont arriver. Là, je pense qu'on va échanger aussi. Et voilà, elles vont apprendre à connaître qui était vraiment leur grand-mère, parce que ma grand-mère petite, on ne sait pas. Et elles m'ont connue que pas vraiment en tant que femme, en tant que grand-mère. Donc là, maintenant, elles sont des petites jeunes femmes. Elles vont découvrir la femme que je suis.
Et merci mille fois pour votre écoute. Merci Gisèle. Merci Judith.